Chers auditeurs, bonjour. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, où nous fêtons aussi Saint-Vincent de Paul, nous sommes à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le Père Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Alors que vous entendez nariner Courchaudian, les chants seront animés par Reine Grâce, Haute et Sique.
Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la messe du 26e dimanche du temps ordinaire, mais c'est aussi la fête de Saint-Vincent de Paul et en ce haut lieu, eh bien, où nous sommes accueillis par des filles de Saint-Vincent de Paul, les filles de la charité, nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu pour la grande figure, la belle figure de Saint-Vincent, pour un homme sur qui reposait l'Esprit de Dieu, et pour toute la fécondité de son ministère qui se poursuit évidemment de nos jours par ses fils et ses filles. Au début de cette messe, alors que nous pouvons faire mémoire de ce grand apôtre de la charité, reconnaissons que notre charité est souvent tiède. Reconnaissons que si nous avons reçu l'Esprit de Dieu à notre baptême, eh bien nous ne le laissons pas se déployer dans notre vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité. pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur.
Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. » Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Un homme avait deux fils. Le grand Peggy avait fait de cette courte phrase, à peine cinq mots, « Un homme avait deux fils », répétée, ressassée comme il aimait le faire, l'emblème, le chiffre d'un de ses grands textes inspirés des paraboles évangéliques. Un homme avait deux fils, la seule parole de Dieu que, disait le poète, le pécheur n'est jamais fait taire dans son cœur. Peggy visait évidemment une autre parabole que celle que nous venons d'entendre et qui commence elle aussi par « Un homme avait deux fils », la parabole du fils prodigue en Saint-Luc. Ici, nous sommes chez Saint-Matthieu et notre homme, est-ce le maître, a également deux fils. Et notre homme est chez Matthieu comme chez Luc, un riche propriétaire terrien. Chez l'un comme chez l'autre évangéliste, ces deux fils sont censés travailler au domaine de leur père. Et chez Matthieu comme chez Luc, c'est là que ça coince. Chez Luc, vous vous en souvenez, ça coince d'abord avec le plus jeune qui veut prendre son autonomie et exige la part du domaine qui lui reviendra en héritage à la mort de son père. Mais ça coince aussi chez l'aîné qui ne supporte pas la magnanimité du père, lequel accueille avec joie le retour du cadet, alors même que ce dernier a dilapidé sa part de la fortune familiale. Chez Matthieu, ça coince également, mais de manière différente. Ça coince chez le premier des deux fils qui refuse d'obéir à son père quand il lui demande d'aller travailler à sa vigne. Ça coince chez le second qui accepte, et peut-être même feint-il d'accepter, mais qui, sitôt le dos tourné, vaque à d'autres occupations. Si la figure du père, ce riche propriétaire, est bien celle de Dieu, ce qui nous est devenu quasi évident dans la compréhension que nous avons de la parole, de la parabole du fils prodigue. Quelle figure des fils, ces enfants de Dieu que nous sommes tous, nous est-elle donnée par ces deux paraboles? Nous serions donc, car c'est de nous dont il s'agit, alternativement rebelles, inconstants, peut-être même un peu fourbes comme le second fils de la parabole de Matthieu, jaloux. Bref, c'est un rude portrait du cœur humain, de notre cœur, qui émane de la figure des fils de ces deux paraboles. Rude, mais probablement réaliste. Il n'y a pas, il n'y a jamais réciprocité et encore moins parité entre la fidélité d'un des deux partenaires de l'Alliance, Dieu, et l'inconstance de l'autre partenaire, la nôtre, celle de l'homme. Mais il faut évidemment aller plus loin, en particulier en revenant à la parabole de ce dimanche, celle de Matthieu. Alors que chez Luc, on ne peut dire qu'aucun des deux fils soit plus ajusté que l'autre dans son rapport au père, aujourd'hui Jésus valorise l'attitude du premier qui refuse d'obéir à son père, puis, nous l'avons entendu, finit par y aller à cette fichue vigne. Jésus parle même à son sujet de repentir. Et si l'on doutait du sens de cette parabole, adressée, nous précise Matthieu, non pas aux disciples, mais aux anciens et aux prêtres, la conclusion de Jésus lui-même dissipe toute ambiguïté. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ce que vise la dénonciation de l'attitude du second des fils, c'est à la fois l'hypocrisie et l'endurcissement du cœur des pharisiens. Ce que vise la valorisation de l'attitude du second, c'est la capacité qu'ont les tordus, les pécheurs, les malcroyants, certains païens, de se laisser retourner par la parole et finalement d'y aller de bon cœur à cette vigne. Comme il est donc difficile de se comporter comme des fils selon le cœur de Dieu. Comme il nous est difficilement supportable de faire la volonté de Dieu, surtout quand il s'agit d'obéir à un ordre, celui d'aller travailler à sa vigne. Dit de manière peut-être un peu plus théorique, comme il nous est insupportable d'accueillir comme une grâce la radicale dépendance que nous avons par rapport à Dieu. Et finalement, on le comprend, car à vue humaine, une dépendance est synonyme d'aliénation. Ça n'est que dans le cas d'une relation avec Dieu que la liberté croît avec le consentement à une radicale dépendance. Mais ça résiste en nous, et c'est probablement bien normal. On résiste d'autant plus que les figures du maître, qui sont employées par l'Évangile, ont été justement dénoncées dans leur caricature par la critique marxiste. Et peut-être plus profondément parce que la figure du père, que notre expérience humaine a imprimée en nous, nous avons tous un père, ou nous ne le connaissons pas forcément tous, Cette figure du Père ne nous prépare pas forcément à envisager la figure d'un Père juste, bon et miséricordieux, tel que nous la dépeignent les paraboles de l'Évangile. Car, comme nous le dit Dieu par la bouche du prophète Osée, « Je suis Dieu et non pas homme », ça n'est pas à partir de la figure de nos pauvres paternités humaines que nous devons envisager la paternité divine. Mais c'est précisément la figure du Père de Jésus, du Père des cieux, telle que nous la dépeignent les paraboles évangéliques, qui doit être l'horizon, la visée de nos paternités humaines. Et trop souvent, nous inversons la perspective. Le Fils avec un grand F, le Fils unique, nous indique, lui, de manière radicale, l'horizon d'un comportement authentiquement filial face à un Père dont, probablement seul, il saisit la profondeur, la largeur, la hauteur de la bonté. Un comportement scandaleux à vue humaine, celui du Fils, et que Paul nous décrit de manière indépassable dans le Cantique aux Philippiens que nous avons entendu dans la seconde lecture. Je cite, « Le Fils unique ne retint pas jalousement comme une proie le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit. » Et l'on connaît la suite, nous l'avons entendu, l'obéissance du Fils qui prend la forme d'un triple abaissement dans l'incarnation, dans la croix et dans la descente aux enfers. Et ensuite, nous l'avons également entendu, vient la réponse du Père à cet extraordinaire acte de confiance, l'exaltation souveraine du Fils devenu Christ et Seigneur, devant qui tout genou fléchit. Si le Père nous indique l'horizon de nos paternités humaines, le Fils et lui seul s'est livré intégralement, corps, âme et esprit, dans la confiance, à la volonté du Père, jusqu'au plus profond de la nuit, jusqu'au plus profond des enfers. Il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons et que nous devons faire une confiance totale, absolue. Évidemment, ça n'est surtout pas le cas face à toute autre paternité, à toute autre autorité de ce monde. Autorité familiale, sociale, politique, cléricale, que sais-je encore. À aucune d'entre elles, il ne faut se confier de manière absolue, sans discernement. Mais avec Dieu, le seul vrai Père, c'est la soumission à sa volonté qui nous fait advenir, nous ses enfants, à la pleine liberté, la liberté des fils dans le Fils. Alors oui, un homme avait deux fils, et nous sommes ses fils, ses filles, tantôt rebelles, tantôt tordus, tantôt jaloux, peu importe. Revenons au Maître, une fois encore, car nous le savons au fond de nous-mêmes, faire la volonté de Dieu est notre demeure, le lieu, le seul lieu de notre repos, le vrai lieu de notre joie. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen.
L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le Père Gilles Drouin. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante. Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, franceculture.fr.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Avec l'intercession de la Vierge Marie, avec l'intercession de Saint Vincent de Paul, demandons que Dieu fasse de nous des enfants obéissants à sa volonté.
Confions les exclus, les méprisés, tous ceux que notre société ignore et qui pourtant nous précéderont dans le royaume du ciel. Répandue à travers le monde, ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, les religieux et les religieuses, les prêtres, les évêques, le pape. Confions les millions de pèlerins qui viennent ici, à la chapelle, et qui demande dans la confiance l'aide et la prière de la Vierge Marie.
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
Protège la famille spirituelle fondée par Saint Vincent de Paul, l'Association internationale des charités, les lazaristes, les filles de la charité, les congrégations religieuses et les associations des fidèles laïcs fondées sur le charisme vincentien, et fais-leur la grâce d'agir avec audace et créativité pour les plus pauvres.
Père des hommes, envoie ton Esprit Saint pour que ta volonté s'accomplisse ici-bas comme au ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. La source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Ça n'est que dans l'Esprit Saint, l'Esprit que nous avons reçu à notre baptême, que nous pouvons vraiment prier comme des fils. Aussi reprenons-nous les mots du Fils unique pour dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, échangez un signe de paix.
Invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Thank you. En paix, prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Je vais à présent demander au Seigneur de bénir les médailles, les chapelets et tous les autres objets de piété que vous auriez apportés à cette intention. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec une grande bonté tes serviteurs qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant et en s'en servant à être transformés par la puissance de l'Esprit-Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du 26e dimanche du temps ordinaire, célébrée à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. Remercions le Père Gilles Drouin qui a présidé et prêché, Reine Grâce Otessiqué pour les chants, Nariné Courchoudian à l'orgue, et pour la prise de son, Fabien Gosset et Benjamin Thuot. Dimanche prochain, 4 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire, nous serons à nouveau à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le chanoine Brice de Malherbe. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Émilie Aubry.